Politique américaine, Vincent Gosselin.
On retrouve notre spécialiste de l'Amérique, Vincent Gosselin, pour faire le point sur l'actualité de nos voisins du Sud. Et on commence tout de suite avec cette histoire d'un jeune noir tué au Minnesota qui fait actuellement couler beaucoup d'encre. Bonjour Vincent.
Bonjour Monsieur Lorrain.
Alors voulez-vous nous rappeler en quelques mots les faits qui ont eu lieu au Minnesota?
Oui, il s'agit de Dante Wright, un jeune afro-américain âgé de 20 ans. Ça s'est passé dimanche dernier, lors d'un contrôle routier. Ça s'est passé dans la ville de Brooklyn Center, c'est en banlieue de Minneapolis, au Minnesota. Et donc, ce qu'on sait des faits, des événements, c'est que l'homme de 20 ans était déjà recherché par les policiers depuis un bout parce qu'il se serait pas présenté au tribunal alors qu'il était accusé de fuite de policiers en 2020, tout ça. Il était aussi accusé de possession d'armes sans permis. Et là, la policière qui est intervenue au contrôle routier aurait voulu le maîtriser. Mais il résistait et en voulant le maîtriser, elle aurait confondu son pistolet électrique, donc son taser, avec son arme et elle aurait tiré en sa direction. Donc c'est ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est ce que le chef de police de la ville de Brooklyn Center a dit. On a vu aussi des vidéos de caméras d'intervention que les policiers portent sur eux. Ouais. Ça a été rendu public, ça a été montré aux journalistes. Donc c'est ce qui se serait passé selon toute vraisemblance, d'après ce qu'on sait jusqu'à maintenant.
Voilà, pour une énième histoire d'un homme noir tué par la police, c'est de nouveau évidemment beaucoup d'émoi dans le cadre du procès de Derek Chauvin.
Exactement, et ça s'est passé tout près, donc en banlieue de la ville où se déroule en ce moment le procès du policier Derek Chauvin, je vous le rappelle, accusé du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd. Donc le procès se poursuit pour une troisième semaine, entre autres un témoignage choc au début de la semaine lundi, c'est le frère de George Floyd qui s'appelle Philonise Floyd qui est venu témoigner lundi, témoignage émotif. Ouais. Et là depuis mardi, c'est la défense qui présente ses témoins, et donc à Minneapolis quand même là, avec le décès de l'Afro-Américain de 20 ans dimanche, la colère est revenue là dans la rue, beaucoup de manifestations, quand même du grabuge, mais il y a eu un couvre-feu qui a été imposé, évidemment les manifestations qui ne respectent pas le couvre-feu, ça se poursuit tout ça, donc la colère est revenue en plein cœur du Minnesota, tout près d'où s'est passé le décès de où se passe en ce moment le procès de Derek Chauvin. C'est assez particulier.
En effet, alors maintenant pour le reste de l'actualité, on parle de ce projet d'infrastructure présenté par le président Biden, un projet gigantesque. Il se dit ouvert à un compromis avec les républicains.
Exactement. On s'était beaucoup parlé du plan de relance économique de 1,9 trillion de dollars. Là, ce plan-là des infrastructures s'élève à 2 trillions. Là. C'est 2 000 milliards de dollars américains. C'est immense. Donc là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est que Joe Biden a présenté ce plan-là il y a deux semaines. Là, on dit que les objectifs, c'est de créer des emplois, de concurrencer la Chine, puis de lutter contre les changements climatiques. Donc, investir massivement dans les infrastructures pour relancer l'économie aussi. Donc, Joe Biden, lui, s'est dit ouvert de discuter avec les républicains, à discuter avec les républicains, de regarder de quelle manière ils pourraient s'entendre, parce que je vous rappelle qu'avec le plan de 1,9 trillion, il y avait eu aucun appui républicain parmi tout le processus. Donc là, Joe Biden, on voit qu'il a juste sa stratégie. Il dit que le débat est bienvenu. Il va inviter des élus républicains à la Maison-Blanche, mais surtout, là, ce sur quoi on mise, là, il s'est dit ouvert, parce que il est dans le plan, il est prévu qu'il y ait une hausse des impôts des sociétés, donc des entreprises. Donald Trump, en 2017, avec sa baisse d'impôts, avait mis le taux d'imposition des entreprises à 21%. Joe Biden prévoit l'augmenter à 28%, mais il dit ouvert aux propositions républicaines là-dessus spécialement. Et peut-être même qu'au sein des démocrates, il va avoir besoin de négocier parce que Joe Manchin, le modéré de la Virginie-Occidentale, lui s'est dit ouvert à une hausse d'impôts, mais pas à 28%. Il se dit prêt à aller à 25%, donc peut-être qu'il aura besoin de négocier même au sein du caucus démocrate. On va bien voir, là, d'ailleurs, M. Manchin qui a fait savoir ses intentions dans une lettre ouverte la fin de semaine dernière. Peut-être que les démocrates vont utiliser à nouveau la procédure de réconciliation qui permet d'outrepasser le filibuster qui exige 60 votes. On va voir où tout ça va aller. Ça pourrait peut-être être utilisé.
Merci pour ce point, Vincent. Je crois qu'on espère peut-être créer jusqu'à 1 million d'emplois par ce plan. Je suis certain qu'on aura l'occasion d'en reparler prochainement. On reparle dans l'actualité de la semaine de l'ex-président Donald Trump qui prend la parole et qui critique de nombreux de ses anciens alliés et puis également Anthony Fauci.
Oui, il a pris la parole samedi soir. Et là, c'est particulier parce que normalement, ses discours étaient télédiffusés. On l'entendait beaucoup sur Twitter. Là, maintenant, il a pris la parole. C'était une levée de fonds du Comité national républicain à Mar-a-Lago, en Floride. Il n'y avait pas de caméra de télévision. Ce sont des sources des médias américains qui nous rapportent tout ça. Discours de 50 minutes. Il a ouvertement critiqué, là, entre autres, Mitch McConnell, le leader de la minorité au Sénat. Et je peux même pas vous répéter les propos qu'il a dit tellement c'est vulgaire, je peux pas vous le dire à la radio, mais il lui reproche de l'avoir critiqué ouvertement lors de la procédure en destitution. Même chose pour Mike Pence, il s'est dit déçu de l'ancien vice-président, de ne pas en avoir fait assez pour contester les résultats d'élections présidentielles, puis s'est moqué aussi du docteur Anthony Fauci, en répétant, bien sûr, ses allégations de fraude. Mais là, ce qui est important, c'est pas exactement ce qu'il a dit, parce que ça, on l'a entendu souvent. Mais c'est vraiment de voir qu'il est en ce moment, présentement, en train de faire campagne pour les élections du mandat de 2022. Parce que là, on regarde quel rôle Donald Trump va jouer, quelle influence il a encore au Parti républicain. Et on voit qu'il est encore très influent parce qu'il y a de nombreux élus, de nombreux candidats aux élections de 2022 qui sollicitent déjà son appui, qui veulent avoir leur photo avec Donald Trump, qui veulent avoir leur mot d'appui. Donc, on voit qu'il est encore excessivement influent au sein du Parti républicain. Il a d'ailleurs dit qu'il va faire campagne contre la sénatrice Lisa Murkowski d'Alaska en 2022. Donc, il est activement impliqué. Il a envie d'être impliqué. Donc, il fait campagne, oui, pour les élections du mandat, mais on pense peut-être là, que c'est déjà une campagne pour la présidentielle de 2024.
Une campagne qui pourrait malgré tout être entachée par les développements des enquêtes, notamment l'enquête juridique du district de Manhattan sur la Trump Organization.
Oui, il y a des nouveaux développements cette semaine parce que je vous rappelle l'enquête, les procureurs de Manhattan qui enquêtent sur la Trump Organization pour savoir s'il y a eu de la manipulation de valeurs immobilières de la Trump Organization pour soit obtenir des réductions de taxes et d'impôts, soit obtenir des prêts ou des taux d'assurance plus avantageux pour l'entreprise. Donc on enquête là-dessus pour voir s'il y a de la fraude, il y a eu de la manipulation de valeurs immobilière. Et là, il y a eu de nouveaux documents qui ont été obtenus par les procureurs de Manhattan. Là, c'est pas publié en ce moment, mais on sait qu'ils sont allés recueillir 3 boîtes et un ordinateur portable de rapports financiers d'un dirigeant haut placé de l'entreprise et de son fils aussi, parce que c'est l'ex-épouse du fils du plus haut placé qui n'est pas de la famille Trump. Donc ça, c'est très important. Mm-hmm. Donc on a obtenu des documents sur ce plan-là. On va voir où tout ça va continuer d'aller, parce que je vous rappelle que 3 enquêtes en cours qui impliquent Donald Trump, celle à Manhattan, aussi en Géorgie, sur l'appel avec le secrétaire d'État pour demander de trouver 11 000 voix pour changer les résultats de l'élection présidentielle en Géorgie. Il y a aussi une autre enquête concernant les événements du 6 janvier.
En effet, des dénouements qui ne manqueront pas d'être passionnants, j'en suis sûr, et qu'on ne manquera pas également de commenter avec vous, Vincent. Alors pour terminer, vous nous proposez de revenir au Canada, non pas en Ontario ni au Québec, mais en Alberta, où des propos critiques sur les nouvelles mesures sanitaires font un petit peu bondir.
Oui, en Alberta, on est au début de la 3e vague. Il y a quand même plus de 50% des cas maintenant qui sont des cas de variants. Ça, évidemment, ça change la donne pour la transmission du virus. Et Jason Kenney, le premier ministre, a évidemment imposé de nouvelles mesures sanitaires la semaine dernière, mardi, entre autres les salles de sport. Hein, les séances individuelles seulement sont permises maintenant. Les commerces, les lieux de culte peuvent accueillir seulement 15% de leur capacité d'accueil habituelle. Les restaurants, les cafés ferment leurs salles à manger. Il y a juste les terrasses qui peuvent demeurer ouvertes. Donc, des mesures quand même assez strictes pour contrer la 3e vague. Et ce qui est particulier dans ça, c'est que il y a de l'opposition parmi ces mesures-là, mais pas n'importe qui s'oppose à ces mesures-là. Au sein même du cabinet, au sein même du caucus conservateur de Jason Kenney, il y a 16 de ses députés conservateurs et un autre qui a dénoncé sur Twitter, mais qui ont signé une lettre qui a été publié pour dénoncer publiquement ces mesures-là, donc des députés qui s'opposent à leur propre chef de parti, à leur propre premier ministre, en disant que les mesures sont trop sévères et s'inquiètent de leur impact sur l'économie, entre autres, sur les entreprises, sur la population, au niveau de la santé mentale. Mais ces gens-là disent défendre les intérêts de leurs concitoyens, surtout des députés ruraux qui vont jusqu'à demander une approche régionalisée. C'est le cas en Ontario, c'est le cas au Québec, où on y va par le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations pour les mesures sanitaires par région. C'est pas le cas en Alberta. C'est vrai qu'il y a plus de cas dans les deux grandes villes, Calgary et Edmonton. Ouais, ouais. Dans les milieux ruraux, c'est moins important le nombre de cas, mais les mesures sont les mêmes pour tout le monde. Donc, en zone rurale, on se dit on est pénalisé pour les grandes villes. Donc, on demande une approche régionalisée. Jason Kenney est ouvert là-dessus. Il dit que la discussion va se poursuivre. Donc, là, on observe vraiment une tension entre les conservateurs issus des milieux ruraux et ceux issus des milieux urbains. Donc là, c'est là où on en est en ce moment. Puis d'ailleurs, parmi les 16 députés qui ont signé la lettre, il y a le président de l'Assemblée législative de l'Alberta, Nathan Cooper, qui a signé la lettre alors que, normalement, le président de l'Assemblée législative doit garder une certaine neutralité. Il s'est excusé, il a dit que c'était un manque de jugement. Donc là, on s'inquiète, évidemment, là, du côté du NPD, du côté de Jason Kenney aussi, qui semble assez inquiet là-dessus, ça fait pas son affaire. On s'inquiète de l'adhésion de la population à ces mesures-là, si leurs propres députés s'y opposent. D'ailleurs, dimanche, une manifestation devant une église, un restaurant aussi, qui a décidé de rester ouvert, de garder sa salle à manger ouverte. On continue de suivre ça, évidemment. Puis il y a un média qui sortait, c'est le Western Standard, qui disait que Jason Kenney aurait menacé ses députés en caucus de déclencher des élections anticipées. C'est d'interprétation, Jason Kenney nie ça, mais on va voir là où tout ça va aller, parce que le défi pour M. Kenney, c'est de garder le Parti conservateur uni. Parce que en 2017, le Wild Rose et le Parti progressiste conservateur avaient fusionné. Et là, après 4 ans, si tout ça devait se défaire, ce serait bien dommage pour Jason Kenney, qui, je vous le rappelle, a été élu avec 55% des suffrages en 2019, 63 sièges, c'est une immense majorité.
Quand les politiques sèment la confusion face aux mesures sanitaires, c'est en Alberta que ça se passe. Merci infiniment Vincent Gosselin pour ce point très bien ficelé sur l'actualité américaine et albertaine. Donc on se reparle la semaine prochaine.
Absolument, merci beaucoup, toujours un plaisir.